les rencontres politiques en Ariège. C'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Ça vaut pour les centres de rétention, ça vaut pour toutes les...
Ça vaut pour les gardes à vue hors instruction d'une enquête pénale, le nombre de personnes qui sont toujours en garde à vue.
Alors, tu ne peux pas enfermer quelqu'un comme ça, tu ne peux pas enfermer quelqu'un comme ça. Tu peux mettre quelqu'un en garde à vue s'il y a, dans le cadre d'une enquête pénale, bah comme ça, c'est ça. Donc c'est le ministre de l'Intérieur, les flics et le ministre de l'Intérieur, bon, les flics font ce qu'ils leur disent, ce qu'on leur dit, donc ils font faire la plupart du temps. Mais c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui décide de politiques dégueulasses, de rafles à Barbès, de centres de rétention, la prison secrète de la police française sur le port de Marseille à Arin dans les années 70, c'est ça, c'est les débuts des centres de rétention. Ah bon, on enferme les gens à la bonne franquette, les Algériens qu'on ne veut pas, parce que après l'indépendance, ils pouvaient venir à merde et tout ça, donc on fait un sorte de contrôle sanitaire, on les met dans un hangar, machin, etc. Et complètement sans rien. Et après, on légalise ça et ça fait les centres de rétention. Bon. Donc et donc, la loi arrive après pour valider tout ça, et la loi, elle a aussi un côté légitimant. Si tu discutes avec des gens comme. Donc tu parlais là, que tu voudrais convaincre et tout ça, ils vont te dire, ah ouais, mais quand même, l'enfermement des demandeurs d'asile en centre de rétention, ah ouais, mais quand même, c'est prévu par la loi. Et donc la loi, tu vois, il y a un vieil adage latin qui dit, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est un peu sur le truc sur lequel repose aussi cette pseudo-démocratie, je sais pas comment vous voulez. C'est-à-dire que finalement, bah voilà, c'est la loi, machin, donc si tout le monde commence à pouvoir dire, ouais, mais cette loi elle est trop dégueulasse, moi je vais pas l'appliquer, ça va être le bordel. C'est ça qui est en toile de fond du machin. Et donc, en droit des étrangers, t'es un peu coincé parce que les lois deviennent, depuis 20 ans, elles sont de plus en plus dégueulasses, mais au-delà du dégueulasse, quoi, je veux dire, enfermer des gens, des demandeurs d'asile en centre de rétention administrative, toi, c'est vraiment, il y a 25 ans, t'aurais dit ça à quelqu'un, il t'aurait dit non. Les demandeurs d'asile, hein. Alors que dans les années 70, on leur disait tout de suite, ok, on te donne la carte de réfugié, bon bien, allez, on va essayer de te trouver un logement, etc. Là, on a inventé cette catégorie de demandeurs d'asile, parce que maintenant, tu n'as plus du tout tout pour pas te donner le statut de réfugié, donc on invente cette nouvelle catégorie de demandeurs d'asile, et on te fout en centre de rétention pour t'envoyer dans un autre pays, machin, etc. Donc bref, ce que je voulais dire par là, je reviens à ta question, c'est que la loi, elle a un effet légitimant. Et ça, c'est un énorme problème. Et donc, pour ces légalistes, légitimistes, ils vont te dire, ouais, mais... Tu vois, il y a la Convention de Genève et il te ressort le bon vieux truc entre le réfugié à qui il faut donner statut, et là vraiment, tu vois, la France est à la fin des droits de l'homme, faut pas déconner, tu vois, ceux qui sont persécutés dans leur pays, etc. Bon, les femmes qui sont persécutées en Afghanistan, on leur donne pas le statut, hein, automatiquement. Normalement, tu vois, ça serait vraiment un truc. Bon. Et donc, il y a les réfugiés. Surtout la figure des réfugiés politiques qui se bat pour la liberté, etc. Et les migrants économiques, à qui bon, on peut laisser crever en mer, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, blablabla, vous connaissez la chanson. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, de dire à ces gens-là, c'est que il y a la question de la preuve. Moi je prends souvent, avec mes étudiants, cet exemple-là, et après j'arrête. Par exemple, il y a des pays où l'homosexualité est un crime, où tu peux être lapidé pour être enfermé, tué, etc. Ok. Donc, si tu dis, voilà, je suis homosexuel, je suis de tel pays, j'ai oublié les pays, il y a quelques pays africains où ça craint vraiment, et pas seulement aussi au Moyen-Orient. Bon. Tu dis, voilà, tu arrives devant l'OFPRA, tu dis, voilà, moi je suis homosexuel, je viens de tel pays, et donc si je retourne dans mon pays, je risque de me faire lapider. Oui. Alors, on te dit, ok, prouvez-le. Prouvez que vous êtes homosexuel. Alors, il y a un pays de l'Est, merde, je suis désolée, je me souviens plus du pays, c'est con, c'est pas la Biélorussie, mais c'est un truc comme ça.
Géorgie.
Je recherche. Où ils avaient une super bonne idée, parce que c'était que des mecs, hein, c'était que les mecs qui sont homosexuels. Il passait des films aux mecs, avec des mecs en train d'avoir des relations sexuelles, et si le mec bandait, il lui donnait le statut de réfugié, et s'il bandait pas, par contre, il lui disait, bah non. Et la Cour de justice de l'Union Européenne a été obligée de dire, on ne peut a fait tout un arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne, vous savez, enfin, a fait tout un arrêt sur les modes de preuve de l'homosexualité et a été obligée de dire on, le fait de produire des vidéos de soi ayant des rapports homosexuels n'est pas un mode de preuve recevable. Il y a des gens, ils ont tellement envie d'avoir le statut, peut-être qu'ils sont vraiment homosexuels, mais peut-être qu'ils disent, bon allez, je vais me faire filmer en train d'avoir un rapport homosexuel, et après, ça prouvera que je suis homosexuel, et donc je vais avoir un statut de refus. Donc, ce que je veux dire par là, ce qu'on peut dire à tes interlocuteurs, c'est qu'en fait, la preuve, le problème de la preuve, il est insoluble, et que du coup, il faut, soit on croit les gens sur parole, comme l'OPRA l'a fait pendant, entre 1954, date de son instauration, et les années 80, date du tournant proto-fasciste ou post-fasciste, plutôt, soit on va dans des preuves, en fait, ou soit cette politique de l'OPRA, c'est vraiment, on le dit, les agents et les agentes de l'OPRA, beaucoup des femmes, parce que c'est précaire, parce que personne ne veut faire ce métier, hein, quand même. On leur dit, bah, fie-toi à ton intime conviction. Tu verras, ça va venir. Au bout d'un moment, tu vas savoir ce qui ment, ce qui ne ment pas. C'est ça. Et donc, il faut leur dire à tes potes, là, il faut leur dire, attendez, vous êtes capable.
Ah ouais, non, discours là.
À tes interlocuteurs, il faut leur dire, si vous voulez, si vous êtes, si vous voulez pas ouvrir les frontières, si vous voulez continuer à faire le tri, eh bien, il faut que vous sentiez capable de. Comme ça, là, de dire, ah bah lui il ment, elle ment pas. C'est ça en fait, c'est ça que ça induit. Et donc c'est de la roulette russe. Ou alors il faut aller jusqu'au bout du truc et dire, à la limite on fait des quotas. Enfin, je suis pas pour évidemment, mais je veux dire, ce truc-là, enfin, je veux dire, cette politique de fermeture des frontières, elle ne peut être qu'appuyée sur un mensonge et sur des gens qui, au doigt mouillé, te disent ah ouais, ok. Parce que si, c'est toujours pareil, si tu as des brûlures, ils vont te dire ah bah non, prouve que tes brûlures viennent de machin. Si tu as un discours trop stéréotypé, ils vont te dire tu l'as acheté. Ouais. Enfin, trop stéréotypé, ou trop machin, trop circonstancié, trop bien fait. Ils te disent.
Ou les jeunes à qui on demande de prouver qu'ils sont mineurs.
Bah, bien sûr, ouais, soit tu as un discours trop bien fait, ils te disent ah tu l'as acheté. Soit tu as un discours un peu comme ça, tu vois, parce que tu es traumatisé, parce que tu as fait 4 ans de voyage, tu t'es fait violer un certain nombre de fois et tu es un peu traumatisé. Et donc, tu n'arrives pas bien à articuler les deux, on te dit bon, ça va aller, ça. C'est pas circonstancié, c'est pas machiné, et puis voilà. Donc, c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, ok, tu veux continuer à faire le tri, parce que c'est la plupart de ces gens-là, ils disent oui, quand même, on va accueillir les réfugiés de la Convention de 51. Donc, ben, si tu veux, à ce moment-là, il faut que tu sois capable, toi, de tu vois, humainement, de faire le tri entre les menteurs et les non-menteurs.
C'est quand même ce qui se passe pour les mineurs isolés, ouais, complètement. Il y en a 10 qui passent, ils le jugent des enfants tout seuls et constatent qu'il y en a 9 qui seront majeurs et 1 qui sera mineur.
C'est une honte. Mais avant, enfin, bon, là on pourrait revenir, mais peut-être des trucs à dire.
Non, c'est bon, enfin, on reste sur les questions, il n'y a pas de problème.
Si, mais
vous faites des trucs. Bah oui, mais regarde, là, du coup, on en a parlé. Ça, on a parlé de la suite, mais là, ça a parlé
de la
mineure. Non, mais ça, c'est, tu vois, c'est aussi très intéressant parce que pendant très longtemps, les mineurs, personne ne contestait leur minorité. Et c'est à partir du moment où leur nombre a un petit peu augmenté qu'on a commencé, enfin, que la question de la minorité a été soulevée. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que pendant. Donc, ça aussi, c'est Sarkozy qui. Parce qu'en fait, tu as les documents. D'état civil étranger, la plupart n'ont pas de photo d'identité. Il faut savoir que la plupart des gens dans les pays non occidentaux n'ont pas de papier d'identité avec photo. C'est rare. Ça, voilà. Donc ils ont juste un petit état civil, maman, papa, le lieu de naissance, etc. Et donc voilà, ils arrivaient, ils disaient voilà, moi je suis machin, j'ai mon état civil, donc j'ai 16 ans, etc. Jusque dans les années 2000, il n'y avait pas de problème, hop, t'étais là. Pas de problème. Bon, voilà, t'étais quand même maltraité à l'ASE, etc. Mais bon, voilà. Moins bien traité que les Français, en tout cas, qui sont déjà maltraités aussi. Mais quand le nombre a augmenté et que les moyens de l'ASE n'ont pas augmenté, il y a les travailleurs et les travailleuses sociales de l'ASE qui commencent à dire, mais attendez, là, on ne peut plus bosser là. En plus, c'est quand même des gamins qui viennent avec des problématiques particulières, qui ne parlent pas le français, qui ont été traumatisés, etc. Donc c'est du boulot. Il faudrait former les gens, mettre plus de moyens, etc. Et donc, c'est les départements qui ont commencé à dire non, vous n'êtes pas mineur. À rejeter les documents des jeunes. D'accord ? Et non, mais juste, parce que c'est intéressant d'un point de vue sociologique. Au début, nous, on a commencé avec, au JT, donc on est un peu des juristes aussi, et on a commencé à dire, on n'a pas de problème, on va, c'était à Paris beaucoup, hein, c'était concentré à Paris, c'était d'ailleurs, comment, cette assaut dégueulasse, qui faisait les évaluations avec Pierre-Henri, là,
c'est pas Forum,
tu verras, c'est pas Forum Réfugiés, mais c'est...
C'est des copains.
Ouais. Et donc, ils faisaient les évaluations, ils disaient non, toi t'as du vernis à ongles, arrête des conneries, voilà, voilà. Et donc, on a saisi les juges, enfin, avec le justice, on a organisé des saisines du juge des juges des enfants. Et juges des enfants, c'est quand même pas, c'est souvent des nanas qui avaient envie de s'occuper des enfants, c'est pas, tu vois, c'est quand même parmi les juges, en général, les plus humains ou les moins des humains qui existent, d'accord. Et au début, les juges ont commencé à faire appliquer le droit et à dire, bah voilà, article je sais plus combien du code civil. C'est, bon, bref, peu importe, 40 et quelques, l'acte d'état civil étranger fait foi jusqu'à preuve du contraire, donc voilà, non, vous avez, c'est pas au département de remettre en cause la véracité des actes d'état civil étranger, donc vous prenez en charge ce gamin, il a 15 ans, alors ok, d'accord. Et bon, et en fait, c'est les travailleurs et les travailleurs sociaux qui avaient trop de boulot, parce que ce gamin est aussi un peu, pour certains, raciste, indirectement, sans le savoir, etc. Enfin, tu vois, ces gamins qui, et avec leurs problématiques qui sont si différents de... Il y a du racisme aussi, tu veux dire, même chez ces gens qui traversent sociaux, qui ont aussi envie, comme les juges enfants, d'aider les gens, quoi. Tu ne deviens pas à travers social si tu n'as pas envie d'aider les autres. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai pas confiance. Et donc, mais on était un peu exaspérés parce qu'ils travaillaient aussi avec pas beaucoup de moyens. Et donc, ils ont commencé à faire remonter au département en disant, voilà, si vous continuez à nous envoyer tous ces jeunes mineurs étrangers, nous, on va mal faire notre boulot de placer les Français, etc., etc. Et donc, ils ont fait remonter auprès des juges des enfants qui sont leurs interlocuteurs et interlocutrices quotidiens. Les juges des enfants, ils prennent une décision et après, ils ont leur travailleur social qui place le gamin, qui machin, etc. Et donc, c'est un peu... Ils travaillent en binôme, si tu veux. Et quand les autres ne sont pas contents, ils ont fait pression sur les juges. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas croire que les juges, ils prennent des décisions qui après, sont tout le temps appliquées. Ça vaut pour les travailleurs sociaux comme avec les flics dans les enquêtes pénales, etc. C'est du bijectif. C'est quand même les gens qui sont sur le terrain. Et donc, ils ont réussi à faire tourner les juges. Et les juges ont commencé à dire oui, alors... Oh, c'est certificat là, la signature là, elle est pas lisible, là il y a une rature, on comprend pas. Donc, et les juges ont commencé comme ça à tourner leur jurisprudence et à commencer à dire oui, c'est vrai, le document est merdique. Et on commençait à dire bon, bah, et quand le document n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas une rature, etc., ils disaient au gamin, bah, prouve-nous que c'est toi. T'as pas de photo sur le truc. Voilà, et donc, bon, après, je ne vous parle pas des tests osseux et tout ça, donc, mais non, mais bon, c'est cette administration qui... Ben,
qui... Encadrée aussi par des élus qui se foutent complètement du social, ouais, ils ont pas ça de sous.
Ben, attends, Bartolone, socialiste, ouais. Oui. Cas, qui a dit, le 93 n'accueillera plus de mineurs étrangers isolés, mais il fait une déclaration publique illégale, bordel. Ça, c'est illégal, tu vois, je veux dire, le département doit accueillir les mineurs étrangers isolés, lui, il dit, on n'accueillera plus les mineurs étrangers isolés.
À Mayotte, j'ai une autre technique intéressante aussi, hein, des flics qui falsifiaient l'arrêté de reconduite à la frontière et qui rendaient le mineur majeur, pouvoir le reconduire tout seul, parce qu'il était arrêté sans ses parents, et donc il avait ses papiers, il montrait ses papiers en lui disant non, tu les as pas, hop, une petite torgnole, et puis tu signes la déclaration comme quoi t'es né telle année, et puis ça le rendait majeur, et il était reconduit.
Ouais. Il y a aussi un autre truc, c'est parce que quand tu descends du bateau, donc voilà, hop, on te rattachait. Donc les mineurs, ça marche si le gamin a 16 ans. Mais s'il a 4 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc là, s'il a 4 ans, on prend une personne du bateau, et on lui dit, bah toi c'est l'oncle de machin, on signe les papiers, donc, et on le rattache arbitrairement le mineur à n'importe quel majeur qui est sur le bateau, pour pouvoir mettre tout le monde en centre de rétention, le temps de les remettre dans le bateau très rapidement. Donc ça, on s'est fait gauler par la Cour européenne des droits de l'homme en 2012, grâce à Marjane d'ailleurs, qui s'est battue comme un chef. Romain Lyon, qui a obtenu cet arrêt, cette condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui est intéressant, donc, il dit que c'est une pratique inhumaine, une pratique systématique. C'est pas un gamin de 4 ans qui. Parce que ça, au Moyen-Orient, t'as le gamin de 4 ans qui se retrouve dans le bateau, qui connaît personne d'autre, qui repart là-bas, on ne sait pas si en jouant quelqu'un va l'accueillir. Et le bateau arrive dans la nuit. Bon. Et ça, c'est pas une fois, c'est pas un gamin. C'est une pratique systématique depuis des années, des années, des années. Au moins 15 ans. On se fait condamner, alors là, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, ni rien, et bien ça ne change rien. Quand je te dis rien, c'est rien.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Donc, non mais ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait c'est-à-dire que le droit, c'est pas, je vous apprends rien, hein, mais c'est pas parce que c'est écrit dans la loi que c'est respecté, c'est une question de rapport de force. Et comme à Mayotte, il n'y a pas de société civile qui soit suffisamment structurée pour défendre ces gens, le droit c'est zobissé, c'est la même valeur juridique que ton papier. Là. C'est la même chose. Vous avez, c'est ça, c'est. Et les arrêts de la Cour européenne de Rome, ils s'en tamponnent. Et c'est quand même, voilà, ils se sont toujours tamponnés dans la mesure de ce qu'offrait le rapport de force politique. Et là, la petite nouveauté quand même, avec Darmanin et compagnie, là, donc régulièrement, par exemple, la Cour européenne de Rome, c'est de Strasbourg, elle peut prendre des mesures provisoires. De temps en temps, elle peut dire, ah non, vous n'avez pas le droit d'expulser telle personne, parce que si vous l'expulsez, il y a un risque qu'elle se fasse torturer ou zigouiller dans son pays. Donc c'est un peu, attendez de voir ce qui se passe, gardez-la, machin, vous ne pouvez pas... Et régulièrement, en fait, moi, c'est une jurisprudence que je suis pour mon boulot de juriste, tous les ans, à peu près, bon, bah, y avait une ou deux expulsions, un préfet, tu vois, d'ailleurs, je me demande si à la fois, c'était pas un préfet de l'Ariège, un préfet qui se fait plaisir, et qui, donc le gars, le mec est en centre de rétention, l'avocat saisit la Cour européenne de droits de l'homme d'une mesure provisoire, la Cour européenne de droits de l'homme dit, stop, non, là, on fait rien, le mec risque de se faire torturer dans son pays, on vérifie que tout, nanana, donc il devient, en vertu du droit international, intouchable. Mais il y a de temps en temps un préfet qui fait que ça soit sur la décision de la Cour, régule tous les ans, un ou deux. Mais ils vont pas le péronner sur tous les toits. Ils le font comme ça, hein, pour se faire plaisir, voilà. Parce qu'ils veulent se payer l'avocat, ou parce qu'ils veulent se machin. Là, quand même, le dernier truc, c'est que Darmanin, il y a eu un ouzbek qui a été comme ça, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour trouver la République parce que ça tombe en veux-tu en voilà. Un type qui n'avait rien fait, qui tombait sous le coup de la loi pénale, mais c'est un arrêté d'expulsion parce qu'il y a une menace grave de trouble à la République, une menace, hein, voilà. Donc le type, son avocate saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qui prend une mesure comme ça, de conservatoire en disant non, vous n'avez pas le droit de le faire. Darmanin le fait quand même, en violation du truc. L'avocate,
il se fait des ingérences.
Alors, l'avocate, c'est souvent des avocates militantes, hein, ouais. Les femmes. Tout ça, parce que tout ça, c'est pas mécanique. Hein. Le droit, c'est pas respecté comme ça. C'est des avocates militantes qui bossent pro bono, qui bossent à l'aide juridictionnelle, etc. Hein. Des associations qui sont derrière. Avec, voilà, l'avocate saisit le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, il ne peut pas faire autrement. Donc, il dit, l'expulsion a eu lieu en violation du droit interne, du droit international, et ordonne à l'État français de rapatrier le mec à ses frais, avec 1 000 euros d'amende, machin. Et là, Darmanin va sur le plateau de BFM TV et dit, non, on fera tout pour qu'il ne revienne pas. Donc là, on était quand même passé dans un truc... Je le faisais déjà, mais ils n'allaient pas sur le plateau de télé pour dire les arrêts de la Cour européenne de Rome et les arrêts du Conseil d'État. On s'en fout. Voilà, donc on est là-dedans. On est déjà là-dedans. Et ça, c'était avant le coup d'éclat de Macron. C'était avant. Donc voilà, il y a quand même une continuité. Bien sûr, je veux pas. Là, ce sera pire si jamais ils arrivent au pouvoir. On était déjà dans un truc quand même.
Les OQTF ont explosé. Alors là, c'est menacer l'ordre public.
Oui, les OQTF ont explosé.
Il y a des gens qui se promènent dans la rue à Lyon, c'est menacer l'ordre public.
Et elles sont valables 3 ans maintenant.
Ah, moi, j'essaie le vendredi soir, tu sais. Ouais. Et oui, quand ouais, c'est fermé, Sinon, c'est pas rigolo.
Ouais. Ouais. Et surtout, elles sont valables 3 ans. Ça parle. C'est plus ou moins une régularisation. Ah, vas-y, non. Oui. On te met une OQTF. Avant, on disait aux gens, bon, pendant un an, là, faites bien gaffe dans le métro, voilà, on retentera un truc dans un an. Pas un an, le temps que le truc se trompe, etc. Bon, un an, c'est un truc, tu vois, dis bon, et 3 ans, là, tu pendant 3 ans, on a dans la clandestinité.
Et avec effet rétroactif.
Oui, alors bah, ça.
IRTF de 5 ans,
interdiction de retour sur le territoire français. Ouais. Alors, ça, c'est aussi un autre truc qui est intéressant, hein, qu'on peut dire, il ne faut pas oublier ça, parce que bon, là, si vous connaissez peut-être un peu le droit des étrangers, mais c'est aussi un truc qui est dingue, c'est-à-dire que c'est un droit qui est absolument imbitable. C'est imbitable. C'est d'une complexité, mais ça qui change tous les 2-3 ans, et d'une complexité, même le Conseil d'État le dit. Et donc ça, c'est un problème, quand même. Je veux dire, quand, On dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que on ne sait pas vraiment quel droit. Il y a des gens là qui réfléchissent, qui essayent de dire bon, est-ce que quand on se promène dans la rue, là, dans la rue, je ne sais pas comment elle s'appelle, là, on sait le droit qui s'applique à nous, c'est le droit qui s'applique aux caméras, parce que quand tu poses une caméra de surveillance, tu dois prévenir machin, là, là, il y a le droit de garder les enregistrements, C'est-à-dire que même nous, quand on se promène dans l'espace public, on ne sait pas vraiment le droit qui s'applique à nous. Mais alors les personnes étrangères, c'est même pas possible. Et ça, c'est comme un énorme problème. Du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la démocratie, je sais pas ce qu'on peut faire avec ce mot, ce qu'il faut en faire, mais je veux dire, quand tu es incapable de comprendre les tenants et les aboutissants du régime qui s'applique à toi, enfin, moi je suis prof de droit et même spécialiste de ça, et franchement, honnêtement, il y a les trois quarts des trucs, j'y comprends rien, ou à peu près, toi, quand les gens me posent des questions, je dis toujours, oulala, attends, je reprends mon truc, je me gratte la tête, je reprends les codes, du machin. Donc ça, c'est en soi, déjà, c'est un.
Je veux dire, c'est kafkaïen. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Et si on regarde la droite internationale, la question palestinienne, par exemple, depuis 60 ans ou 70 ans, on sait que ça se passe dans l'illégalité la plus complète. La colonisation, c'est interdit. Mais ça continue avec l'aval et le soutien même de ce que fait ces lois.
Ouais. Alors le droit international, c'est encore plus. C'est flagrant, c'est un droit qui n'a pas de. Enfin, qui repose, dont l'application repose quand même sur le bon vouloir de ces.
Le principe même d'un gouvernement, c'est de se mettre au-dessus des lois.
S'il y a d'autres questions, on a encore un peu de temps. Si vous souhaitez, on peut prendre d'autres questions ou réflexions.
Je voudrais bien expliciter un peu plus la question du droit du sol, comment elle fonctionne aujourd'hui, et parce qu'elle a mis en question, enfin, c'est pas compliqué, c'est de comprendre vraiment les conditions et tout ce qui est de plein droit ou pas. Enfin,
ouais. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a deux moyens de naître français, d'être français à la naissance, donc c'est-à-dire d'avoir un parent français, ou de naître en France d'un parent qui est lui-même né en France, c'est le double droit du sol. D'accord. Mais après, il y a la possibilité d'acquérir a posteriori la nationalité française si tu nais sur le territoire français, soit automatiquement à tes 18 ans, soit tes parents peuvent faire une demande anticipée à tes 13 ans si tu as vécu pendant 5 ans en France, les 11 dernières années ou un truc comme ça. Il faut avoir vécu 5 ans en France pendant une certaine période. Si tu es né en France mais que tu t'es rebarré et que tu reviens après, ça ne marche pas forcément.
Il y a scolarisé aussi.
Oui, mais comme si tu habites en France.
Mais je parlais aux mineurs isolés.
Ouais. L'école est obligatoire en France, donc c'est enfin, jusqu'à 16 ans. Donc ça, c'est pour l'acquérir a posteriori. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 98, Pasqua avait fait sauter le caractère automatique. C'est-à-dire, si tu nais en France, tes parents sont rien, et que tu restes en France, à 18 ans, tu es automatiquement français. Et Pasqua avait eu la bonne idée de dire « Ah ouais, mais la nationalité française, il faut vraiment adhérer au truc, la nation c'est une famille, il faut le vouloir, etc. » Faut pas que ce soit automatique, que ce soit une vraie volonté de rejoindre la communauté des Français. Et donc, il avait fait, en 93, les jeunes devaient aller au commissariat ou à la gendarmerie ou à la mairie pour faire une déclaration de volonté de devenir français. Sauf qu'en fonction des mairies, il y avait plus ou moins d'informations qui avaient été faites. Donc il y avait des endroits où les gamins, ils étaient nés en France, ils étaient à l'école française, ils se croyaient français, et ils n'ont pas fait la déclaration. Et puis un jour, ils se sont aperçus, tu vois, au détour d'un truc, d'une formalité, qu'ils n'étaient pas français. Et donc ça a fait tout un pataquès, ça a fait quand même pas mal de la merde. Il y avait quand même des gens qui ne sont pas devenus français, à cause de tout ça. Et donc en 98, ils ont rétro-pédalé quand même. Et ils ont rétabli l'automaticité du truc. Et là, je pense que Bardella, il veut. Bon, à Mayotte, justement, ils sont déjà revenus sur ça. Il y a des conditions, c'est-à-dire que les parents doivent être en séjour régulier au moment de la naissance. Ils ont déjà essayé de revenir là-dessus. Enfin, ce serait complètement dingue pour. Moi, je pense qu'il faut vraiment.
c'est un peu le cœur du truc, et c'est là que tu vois que c'est vraiment des fachos. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, il faut repenser à... Parce que quand on parle de toutes les saloperies qu'on inflige aux étrangers, on est déjà un peu en aval du truc, du problème. Il y a des gens qui sont arrivés dans les années 60, qui ont bossé comme des chiens et qui vivent dans des foyers. Ils ne peuvent même pas demander à être naturalisés parce qu'ils n'ont pas assez de thunes. Aujourd'hui, pour être naturalisé, c'est une condition de ressources. Si tu es au RSA, si tu vis avec le minimum vieillesse, ce n'est même pas la peine de demander ta naturalisation. Après, on fait des grands discours sur les valeurs de la République, l'adhésion à toutes les valeurs de la République, mais en fait, c'est d'abord le pognon. Donc, il y a des gens qui vivent en France depuis 40 ans, qui ne peuvent pas acquérir la nationalité française. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France et qui sont français parce qu'ils ont un parent français. Ils n'ont jamais mangé de camembert. Ils sont français. C'est complètement débile. Donc, je veux dire, il faut absolument revenir sur... Et imaginer un truc, à partir du moment où tu résides 2-3 mois, pour l'Europe c'est ça, à partir du moment où tu résides 3 mois à un endroit, ben voilà, t'es citoyen de cet endroit, puis c'est tout. Voilà, il faut qu'on fasse un truc comme ça. C'est tout le truc du droit de la filiation, je veux dire honnêtement, c'est complètement rétrograde. Je veux dire, le problème des privilèges de naissance, c'est déterminé, enfin, je sais pas, 1789, tout ça, c'est... Donc, surtout de la filiation, c'est complètement merdique, et il faut un endroit de la résidence. À partir du moment où tu habites avec des gens à un endroit, bah, tu fais partie, assez rapidement, tu fais partie de la communauté. Si la communauté ne te plaît pas, les règles locales ne te plaisent pas, la vie des gens ne te plaît pas, bah, tu te casses. Et puis si tu es là, bon, même si ça ne te plaît pas, bah, tu t'organises, tu vis avec les autres, etc. C'est ça, c'est vivre avec les autres, qui doit être le critère d'appartenance au groupe politique. Tout le reste, ben c'est ça, quoi. C'est le nationalisme, le fascisme. Si la nationalité, c'est ce que c'est aujourd'hui, c'est pas étonnant qu'on en soit la nation, qu'on soit ce que c'est et qu'on en soit là. Pourquoi ? Je pense qu'avant de... Après, le traitement des étrangers, c'est vraiment le bout du bout. Mais cette histoire de « je suis français parce que mon père et ma mère est française », c'est les germes de ce qu'on voit là, quoi. Enfin, il me semble. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui, tu viens de pointer une notion intéressante. Il y a souvent, parfois aussi, ce débat-là à gauche, parce qu'il y a quand même une gauche qui a une certaine affection pour le concept de nation. Moi, je suis convaincu que, historiquement, l'idée même de nation renferme en elle-même du nationalisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Donc, est-ce que... C'est vraisemblable de voir les choses sous cet angle-là. Est-ce qu'à un moment donné, aussi en termes d'émancipation, il va falloir se débarrasser de ce concept de nation qui, de toute façon, est quelque chose qui fait forcément qu'il y a ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans, en fait.
Bon, après, là, je veux dire, là, tout ce que j'ai, il y a plein de choses que j'ai dites avant qui sont des sortes de vérités objectives sur l'histoire, etc. Après, il y a des points de vue politiques. Là, je donne un point de vue qui est le mien et qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais oui, moi je pense que oui, la nation, elle porte en elle-même. Alors après, la nation, le mot et le concept dans l'histoire, il a revêtu différentes acceptions, mais aujourd'hui, la nation, elle exclut celui qui n'est pas national, et celui qui n'est pas national, c'est celui qui n'a pas un père, un papa ou une maman française. Après, la naissance sur le territoire, bon, même la histoire de naissance sur le territoire, c'est réducteur parce que tu peux être né par hasard dans un autre pays et après arriver. Je pense qu'à partir du moment où tu... Enfin, revenons, 1793, putain merde, tu résides en France pendant un an, je pense qu'on peut réduire, tu nourris un vieillard, tu adoptes un enfant et tu te... voilà, et puis hop, tu es citoyen français. Bon, on n'est pas obligé de reprendre le français. Voilà, c'est quand même être dans une communauté, à un endroit donné, ça devrait suffire pendant un certain temps, on peut s'entendre sur le temps, ça devrait suffire à faire de toi un membre de la communauté politique. Et oui, moi je pense personnellement que la notion de nation, aujourd'hui, c'est pour ça que bon, quand j'ai vu qu'ils appelaient leur parti, mais bon, la France insoumise, je me suis dit que c'était mal barré. Voilà, mais après, bon, là c'est un autre débat. Non, je pense que l'État, Bah, après, ça, c'est encore vraiment très personnel, hein, c'est mon opinion. Je vois pas comment. Mais après, on va pas non plus se la raconter. Il y a l'État qui est là, il y a les institutions qui sont là, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, etc. On va pas jeter tout ça. Donc, il faut essayer d'inventer une autre manière d'agencer ces choses, se les approprier, les collectiviser, les communautariser. Il faut faire avec les institutions existantes. Mais voilà. C'est pas demain le grand soir, donc il va falloir quand même. Il faut pas être dogmatique non plus. On peut être théorique, en théorie. Ben, moi, le concept de nation me paraît complètement gangréné de l'intérieur, et moi je me fous à la poubelle directement, sans aucune hésitation. Mais après, les résidus de l'État que les post-fascistes nous laissent, on ne va pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il y a des trucs à récupérer et à réorganiser et à repenser, mais à partir de l'existant. Je veux dire, les institutions étatiques actuelles, il faut s'en servir, quoi.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Je veux dire, comment le faire si on prend le terme de communauté, la communauté nationale, oui, c'est une illusion complète. C'est un seul de nous. Comment le terme quand même de ces gens qui existent, comme tu dis, une communauté réelle, comment on se rapproche de ça? C'est ça le problème.
Mais moi, il me semble, mais là, encore une fois, ça n'engage que moi, il me semble que c'est beaucoup plus à l'échelle plus locale. Et après, on ne va pas non plus, tu vois, se renfermer sur nous-mêmes, à foi. Non. Mais essayer de faire que les interconnexions, et je pense aussi qu'il y a, faut réfléchir à des thématiques, il y a des thématiques qui peuvent être très bien réfléchies et travaillées, expérimentées à des échelles locales, alors que d'autres, je veux dire, les transports, les soins, tu vois, on va pas faire un scanner par petite ville, il y a des trucs qui...
Tout le progrès technologique va contre ça. Il met les choses de plus en plus loin hors de notre portée, etc. Le numérique, par exemple, ouais, qu'est-ce qui reste de nos cas, des liens, des relations, etc. C'est une merde.
Mais je pense qu'il faut, il faut essayer de un peu comme ce que je parlais du Moyen-Âge, là. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques je pense qu'il faut essayer de réfléchir et d'expérimenter. Il y a certains trucs qui vont être expérimentés à l'échelle très locale, peut-être pourquoi pas de la rue, après de la ville, après peut-être un peu, si on garde, je sais pas, le département, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, il y a des trucs, tu vois, en fonction des sujets, s'organiser à des échelles différentes et à l'échelle communale, et puis mettre en lien les communes. Voilà. Bon, après ça, c'est vraiment une idée, une intuition, mais peut-être qu'elle est complètement fausse. Peut-être qu'au contraire, il faut reprendre l'État, le réformer, qu'on arrivera à trouver des dirigeants super qui vont refaire un super État. Moi, c'est pas comme ça que je trouve.
Par exemple, la question paysanne, je trouve que c'est une question qui montre qu'on peut faire très concrètement à l'échelle locale plein de choses. Mais c'est aussi la question qui est en anglais de guerre civile. Quand on voit les positions fascistes pour les paysans d'ailleurs, on ne peut pas inquiéter ce truc. C'est pas contre
eux. Ouais. Mais tu vois, les soulèvements de la terre, c'est quand même super ce qu'ils font. C'est un truc, c'est un mode de résistance.
Oui,
mais bon, évidemment, la question de la terre et de l'agriculture, elle est centrale.
Oui, là, plus en plus.
Comme celle des étrangers à l'envers. Enfin, là, c'est vraiment, je pense qu'il y a des choses à expérimenter. De toute façon, il faut expérimenter des trucs. Là, à mon avis, pas sur le terrain politique, politicienne, machin, mais il faut expérimenter des trucs d'agriculture, des trucs d'entraide, expérimenter, mettre en réseau ces expérimentations pour leur donner de la puissance. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, peut-être. Ouais, mais bon, après, chacun fait sa manière.
Sur les migrants, quand même, il y a déjà localement, moi je vois en Ariège, il n'y a pas qu'en Ariège, où il y a quand même des gens qui s'organisent et qui, à Ariège, là, je ne sais combien d'associations, qui s'occupent concrètement des migrants. Et localement, c'est une vision qui est complètement déformée. parce que les gens sont beaucoup plus attachés à ça et beaucoup plus solidaires avec les migrants que ce qu'on veut nous faire croire.
Ben voilà, c'est ça. Donc il faut aussi qu'on donne de la visibilité à ces choses-là, complètement. D'ailleurs, au Gistine, on va organiser une journée là-dessus sur les résistances et pour aussi que les gens se rendent compte et donner de la visibilité à ça. Ça fait aussi partie des choses. C'est-à-dire que c'est de la grosse propagande. Bah, après, des fachos, il y en a quand même. On va pas se pleurer. Hein. Mais mettre en réseau, donner de la visibilité, il y a plein de choses à faire.
Bon, en fait, ça a un peu été dit. C'est que ce qu'on essaye de décrire là, de, est-ce que ça se passe au niveau communal ou quoi, en fait, ça se passe déjà. Parce que les gens sortent du cadavre, de fait, ils ne sont pas envoyés dans leur pays. Et du coup, la solidarité, elle, elle existe toujours. Elle est toujours là. C'est quand même la petite note.
Oui, tout à fait.
Et on ne se demande pas si c'est à l'échelle de la commune ou quoi, juste on fait ensemble. Et ça fonctionne. Bon, ça fonctionne comme ça peut. Mais on sait qu'on sait le faire, quoi. On n'a pas forcément besoin d'un modèle entre humains, on arrive à s'organiser.
C'est ça qu'on arrive.
Oui, c'est ça, partout en fait.
Ouais, puis il y a quand même, enfin, dans les territoires, par exemple, dans le 93 et tout, c'est chaud. Hein.
Ah oui, c'est chaud.
Dans le Calédie, c'est chaud aussi.
Hein. Non, mais même ici, on peut pas, on n'arrive pas à faire. Je veux dire, c'était juste une petite
note
pour dire que théoriquement, on n'a pas vraiment besoin d'une base, en fait, humainement, on sait s'entraider, quoi.
Bien sûr.
Là, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas tout gérer. Mais...
Non, mais bien sûr.
C'est retrouver aussi un peu d'humanité, quand même. Là, je trouve que d'essayer de fonctionner... Mais avant, Jacou, il parlait des paysans. Les paysans, ils s'entraidaient. Moi, j'habitais à Tarascon, mon père travaillait à Péchigné, on avait une ferme à côté. Mais on allait aider, les gamins, et tout le monde allait aider au moins deux fois. Il y avait déjà
l'entrée. Après, chaque localité a quand même mis en place des choses assez intéressantes. Moi, j'ai l'impression que ce qui manque encore un peu, c'est la mise en réseau des différents territoires. Typiquement, bon, je sais pas, j'ai jamais vécu à Toulouse, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus de demandeurs d'asile et beaucoup plus de personnes qui sont menacées par ces politiques-là. Dans cette agglomération que nous, en Ariège, moi, ce qui m'interroge, là, surtout avec la séquence politique qui risque d'arriver, c'est comment nous, qui avons un territoire, un des territoires les moins densément peuplés de France, on pourrait être une base arrière, typiquement pour une situation où ça se durcirait, quoi. J'ai l'impression que moi, c'est un peu ce travail-là qui nous manque encore.
Après, ça existe. Au niveau de l'Ariège, par exemple, il y a une permanence administrative qui existe, qui est autogérée, qui n'est pas avec les personnes savantes qui ont étudié le droit, etc., mais qui s'auto-forment. Et en fait, des fois, les personnes les mieux formées, c'est les personnes qui vivent les choses et qui peuvent l'expliquer après à d'autres personnes qui arrivent. Et du coup, il y a des liens avec des gens de Toulouse, etc., pour continuer dans la note positive. Mais du coup, après, les réalités aussi, elles sont tellement... différentes aussi parce qu'aussi il y a des pratiques de préfecture et que en fait on voit encore une fois que le droit c'est ce qu'ils choisissent et l'état de enfin, c'est comment c'est tu l'as dit et du coup les pratiques de la préfecture et tout même nous entre nous enfin là en Ariège il y a la Ligue des droits de l'homme par exemple qui fait n'importe quoi et qui du coup n'est pas du tout au courant des pratiques de la préfecture qui détient plein d'informations qui ne sont pas relayées et qui du coup des gens qui paraissent vouloir faire pour, ne font pas avec aussi les gens. Ça change tout. Et ça, je pense qu'il y a aussi cette notion. On dit beaucoup qui font pour les migrants, etc. Enfin, c'est un problème à partir du moment où on fait pour et pas avec. Moi, je pense que je vais faire bien.
Et ça veut dire que typiquement, des personnes qui pourraient dire « Moi, je pense avoir les conditions réunies, matérielles pour accueillir », c'est possible d'orienter ces personnes-là vers les permanences pour qu'elles soient identifiées et qui est.
Oui, bah c'est encore à créer, etc. Mais en tout cas, il y a même des personnes qui viennent en Ariège parce qu'ils sont dublinés et qu'en fait, il faut un temps et qu'en fait, en Ariège, il y a moins de contrôle. Si tu ne conduis pas, il y a très peu de chances, à foie, etc. Ce n'est pas à pied, c'est la voiture, la problématique. C'est en voiture ou dans les transports, en fait, en Ariège, je pense que les arrestations. Du coup, après, il y a tout ça à réfléchir. Mais la permanence, du coup, c'est la mauvaise foi qui est juste à côté, si là tout le monde connaît. Et elle a lieu deux fois par mois, c'est le deuxième et quatrième lundi de chaque mois. Et c'est ouvert, donc on a des conditions quand même pour jouer la permanence. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est ouvert. Après, il y a un engagement, on a des bases d'auto-organisation qu'on a besoin de sentir respectées pour s'organiser ensemble, mais c'est ouvert à des gens qui ont envie de s'emparer sans être experts du droit, en fait. Enfin, nous, on n'est pas expertes du droit, parce qu'en fait, on est des meufs, et quasiment, et voilà. Du coup, c'est possible de nous rejoindre, et après, justement, de, avec l'occasion solidaire, quel lien, enfin, voilà. Parce qu'il y a la partie droit, mais ça dépasse toujours, en fait, forcément. Et du coup, après, c'est une liaison réseau. Nous, en fait, on fait très peu de droit. On appelle un peu les avocats, on redirige, etc. Ou on réexplique un peu les droits des gens. Mais ce qu'on fait, c'est de la mise en réseau. Et voilà, ça, c'est à continuer de faire. Et du coup, bah, là, j'ai l'occasion solidaire, c'est déjà...
J'ai une question à vous avez dit que vous avez parlé par rapport à des 19e siècle, 20e siècle, un petit peu. Et ça fait des années que je me pose la question, comment on est arrivé jusqu'à là, en fait. Je ne comprends pas. Chaque année, un problème contre les étrangers, ça évolue et tout. Et vous avez parlé par rapport à Sarkozy, Macron, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Mais c'est les réalités où les citoyens français qui votent. Et en fait, ils savent. En fait, quand on vote, on sait les programmes qui sont présentés et c'est leur choix. Et je ne comprends pas la raison pourquoi ils ont l'impression que les étrangers volent quelque chose de leur travail. Ou... En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Après, ils ont fait des listes, les métiers attentionnés et tout. Et qu'ils n'ont pas des médecins, les infirmières, les instructeurs agriculteurs et tout. Mais ils ne volent pas. Embaucher les étrangers. Mais les citoyens français aussi, ils veulent pas travailler. Ils veulent travailler. Mais je parle par rapport à en fait, les infirmières ou la structure agriculteur. Mon père, il est agriculteur, il a travaillé et tout, mais la préfecture, il a refusé son demande. Ma mère, elle est infirmière et on a cherché aussi travailler et tout, mais il n'y a personne qui veut embaucher. On part sur les étrangers qui ne veulent pas travailler et c'est pour ça en fait il faut qu'ils quittent le pays. Mais en fait les étrangers ils veulent travailler, mais les gens ils ne veulent pas embaucher. Il y a déjà, ils embauchent, mais c'est les préfectures qui ne l'acceptent pas. En fait il n'y a ni le droit et ni logique dans leur action. Je ne comprends pas. Ma soeur, elle a eu son 13 ans en France, elle a eu son 18 ans, elle a fait son demande. Mais ils sont refusés. Et il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a jamais réponse.
Elle est en France ?
Non, elle est arrivée, mais elle a eu
13 ans, elle était en France.
Exactement.
Elle a 18 ans, elle a
fait son demande. Et après, elle a eu son 18 ans, elle était au lycée, enfin, elle est au lycée, etc. Et elle fait ses études, elle fait ses stages et tout. Elle essaie d'avancer dans sa vie, elle t'écrit à France parce que voilà, elle aime bien où elle est. Mais en fait, il te refuse, mais il n'y a jamais la réponse. Il y a la réponse qui est, en fait, pour tout le monde, c'est pareil. Mais en fait, chaque individu est différent, chaque dossier est différent. Comment on peut donner les mêmes réponses ? C'est, vous n'êtes pas intégré, vous n'êtes pas bien intégré en France. En fait, c'est quoi intégrer ? En fait, comment tu peux intégrer mieux quand je parle français ? Je vais au lycée, j'aimerais bien étudier, j'aimerais bien travailler ici, j'aimerais bien construire ma vie. Mais je ne vois pas c'est quoi... je ne sais pas, je ne peux pas me marier parce que je me marie, je ne peux pas avoir un enfant parce que c'est beaucoup de... Il y a des gens qui font ça aussi, mais ce n'est jamais suffisant. En fait, ils te demandent plus, mais c'est des...
Donc on a tous ici et toutes une partie de la réponse. On voit bien que c'est pas rationnel. Il y a aussi dans la nation, la nation elle existe aujourd'hui s'il y a eux et à nous. Il faut bien qu'il y ait les autres, les étrangers, qui sont aussi responsables de les mots. Enfin, c'était, les ficelles sont tellement grosses que des fois c'est. Tu te dis putain ouais bah voilà. Bah voilà, c'est l'étranger bouc émissaire, l'étranger délinquant, l'étranger qui prend le travail des Français. Voilà. Et pour l'instant là, ils démantèlent les services publics. Voilà. Il y a une part de propagande qui est tellement grossière que on le voit tous et toutes. Et après, il y a aussi un peu plus sophistiqué, les experts, les économistes à la petite semaine qui te sortent leurs statistiques de merde. Et qui croient vraiment que les gens peuvent être réduits au titre d'agents économiques, machin, ça. Et donc ça, c'est aussi une forme de... Bah, Si je dis du fascisme, les autres vont dire ah non, c'est pas du fascisme. Et bon, c'est quand même, je veux dire, voilà, c'est, ça tue l'humain, ça tue, ça nous réduit à des, voilà, des agents économiques qui veulent ci, acheter ci et pas acheter ça. Enfin voilà, c'est toute cette société, c'est le capitalisme, voilà, le monde de la marchandise autoritaire, on est là pour consommer de la merde. Et, voilà, bon, c'est un peu des généralités, mais bon, pour répondre à ce que tu dis, c'est un peu ça, quand même, c'est un peu ce système capitaliste est, avec un monde divisé en États. Et les structures les grandes machines capitalistes qui produisent ce gâchis énorme, quoi. Ce gâchis énorme.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
En fait, pour être honnête, moi j'ai l'impression que même eux, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, ils font des demandes. Et quand tu réponds, en fait, tu fais tout quand il y a des questions ou des demandes, etc. En fait, c'est jamais suffisant. Et ça te donne l'impression que même eux, ils savent pas ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent les étrangers travailler. En même temps, non, je ne veux pas. Et c'est, en fait, c'est, je ne sais pas, pas penser ou pas dire.
C'est juste une mascarade, en
fait. Oui, c'est...
En fait, des fois, il n'y a pas de règle, quoi. Sur les mêmes préfectures, tu ne comprends pas. L'un, il a son titre de séjour de 2 ans, l'autre, c'est de 2 mois, ils ont la même situation. C'est, on dirait que c'est la loterie, quoi.
Ça aussi, en fait, on a des préfectures qui est préférence ou pas préférence. Ouais. Mais en vrai, c'est la même loi. On utilise le même code civil ou je ne sais pas. Le code des trous.
Non mais moi j'ai un peu une opinion là-dessus, mais bon c'est juste mon opinion, mais après, je l'assume plus en plus. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais quand tu répondais à Sébastien en disant bah à un moment il va falloir quand même assumer, enfin tu vois que t'es pour la faire assume. Il y a un moment où il va quand même falloir rouvrir le putain de dossier de la morale en fait, tu vois, qui a été bien. Enfin, c'est même pas. Voilà, quand la société s'est laïcisée, c'est pas cette sortie du christianisme, c'est même pas se construire en dehors des valeurs chrétiennes, c'est que la société moderne s'est construite sur des valeurs anti-chrétiennes, vraiment, avec une espèce de... Et à un moment, le fait de faire fi de toute recherche de perfection morale, enfin vraiment, au sens de toi, de comment... Ça pose un sacré problème quand même, à quel moment tu as un être humain devant toi, et tu peux comme ça le balader indéfiniment, des mois, des années, enfin tu vois, il y a pas de... Et moi je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a peut-être pas d'autre réponse à part celle-là, tu vois, qu'à un moment, il va falloir ouvrir ce dossier-là.
Mais du coup, ça, j'ai l'impression que c'est notre rôle quand on peut, genre, justement, accompagner des familles à un territoire comme l'Ariège, parce qu'il y a toujours cette question du cas par cas, de faire pas une lutte au cas par cas, mais une lutte, en faire une lutte politique, mais qu'il y a quand même le territoire de l'Ariège, on peut faire ça, de faire pression, clairement, sur des dossiers, sur des familles, etc., pression à la préfecture, sans que ça devienne juste des luttes pour le petit droit d'une personne, mais pour un truc plus général, d'en faire des luttes politiques, mais avec une pression sur des cas par cas. Et ça s'est fait en Ariège sur des IRTF qui ont été annulés, sur des choses comme ça. Et du coup, d'être accompagné par des personnes, en fait, quand tu vas à la préfecture et qu'il y a des propos racistes très clairement, etc., et que tu es une personne qui n'a pas peur pour ses papiers, qui n'a rien à perdre quelque part en termes de privilèges à ce moment-là, de se mouiller et de dire. En fait, ce que vous dites, c'est hyper raciste, en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi toute la peur. Moi, j'ai accompagné plein de gens qui vivent le truc, mais juste à chaque chose que tu peux répondre, ben, en fait, t'as peur. Et du coup, de nous, c'est notre devoir, en fait, aussi, à un moment, qui avons des privilèges, de se mouiller, en fait, et d'accompagner ces personnes, et sans ça, et de même d'accompagner des gens qui cherchent du boulot ou des papiers qu'on peut faire, qui peuvent aider pour des dossiers, et de confronter les gens à dire « Ah ouais, vous voulez pas, mais pourquoi vous voulez pas vous mouiller ?» Enfin, je croyais que... Et moi, je pense que c'est vraiment de... En tant que, là, la plupart des gens qui sont ici, en étant privilégiés, en étant pour la plupart blancs, en fait, de se mouiller, quoi. Et je pense que c'est là... Enfin, c'est un peu un des trucs que je vois, de soutenir, d'aller au lycée avec les jeunes, d'aller chercher les papiers, d'aller mouiller les professeurs, d'aller dire « mais vous accueillez dans votre classe ». Enfin, moi, je vois que ça, quoi. Et c'est un moment de prendre ce risque-là, quoi. Je le dis avec émotion parce que ça... Mais non, je pense que c'est assez...
Avec ma famille, par exemple, c'est Saint-Pauvain, tu vois, ou... c'est un truc qu'on n'a pas mis aussi avec Christian Maurice, quoi. Ouais. Les gens, ils travaillent, ils étaient toujours derrière nous, derrière ma famille. Ils ont vraiment tout essayé, ils sont toujours là pour nous.
Mais juste, en fait, c'est vraiment super important. Merci que vous êtes là pour nous, pour, vraiment pour tout le monde, parce que quand il y a des rendez-vous, etc., quand je viens avec une Française, c'est, ils te regardent différemment, ils te parlent différemment. Et c'est vraiment super important. Et merci pour tout le monde.
Mais ça, c'est aussi un autre travers de l'État. C'est que c'est aussi c'est l'administration qui rend aussi ça possible. C'est-à-dire que c'est, il y a une sorte de déshumanisation rendue possible par la machine administrative. C'est-à-dire que si, quand même, c'est dire,
une responsabilité fonctionne encore.
Oui, mais.
T'es pas obligé.
Non, t'es pas obligé, mais. Tu vois, par exemple, il y a un type qui a fait un super bon, qui s'appelle Camille François, sur les expositions. Il montre bien toutes ces femmes, ce sont des femmes, c'est des métiers un peu. Le subalterne de l'administration, orange, je sais pas quoi, machin. Et donc, elles sont aussi elles-mêmes déclassées. Et je pense que le vote FN, c'est beaucoup ça. C'est des gens qui sont déclassés, qui galèrent, enfin moi, eux, elles-mêmes galèrent à payer un loyer, avec leurs enfants, ni rien. Et on leur demande d'appliquer des textes dégueulasses qui expulsent, enfin, je veux dire, avec la loi, je sais plus, la dernière loi, là. Non, le ministre du Logement, là.
Carillon,
ça, donc, et tu vois, tout le processus d'expulsion des gens, des locataires, parce que moi j'ai pas été clair, des locataires de gens qui habitent dans des logements sociaux, etc. Donc, elle te montre bien le truc. Et les meufs, oui, c'est un peu facile de les renvoyer à leur responsabilité, tu vois bien qu'elles sont toutes un peu comme ça. Ah ouais, je sais pas, je trouve que c'est. Sans vouloir, tu vois, ça serait intéressant. Sociologiquement, tu vois, il y en a qui disent que finalement une partie des comportements est liée à la biologie, à une partie biologique, et on peut dire, bah, moi je trouve que quand même ça interroge. En tout cas, la structure de l'administration favorise, après évidemment, c'est toujours facile de dire non, voilà, c'est toujours possible, pardon, de dire non, et là, mais quand même, ce monstre froid, quoi. Avec des règles, machin, une hiérarchie, des gens qui distribuent les bons points, les mauvais points, ça commence à l'école, ça finit après, voilà. Bon, bah, c'est quand même. Voilà.
Mais c'est le problème, c'est la question méta, parce que de toute façon, l'administration moderne, elle est toute pratique, c'est des verts, c'est. Tiens, par ça, voilà, c'est la structure des États. C'est le réseau administratif, c'est bureaucratique, c'est la même question. Tout à fait, ça. Et ça n'a pas été mis en place, il y a toujours ce truc de. A été mise en place au hasard, ça a été mis en place parce que ça marchait très bien pour certains objectifs, et voilà.
Qu'est-ce qui nous aime ?
Il y a aussi un truc à rappeler, peut-être, mais parce que Emilien Bernard, il avait bien rappelé son livre Forteresse Europe, commençait comme ça, en disant en fait, il y avait quand même plus de la part de la gauche politique, une démission totale sur la question, enfin, il disait, mais c'est vertigineux.
Pas grand chose d'autre à dire pour définir la gauche, mais c'est. Tu as parlé de la question morale, effectivement. L'administration, s'il n'y a pas de morale, ils ne sont pas responsables. C'est quelque chose de responsable, et ils pensent qu'ils veulent. C'est toujours là, avec un rapport. Non, mais c'est vrai. C'est la déresponsabilisation totale, et qui fonctionne, mais c'est divers.
Et en entendant, en mariage, on peut les voir dans la rue, on sait qui c'est en fait, on ne sait pas derrière. Enfin, je veux dire, on est certaine à voir qui c'est concrètement, à demander, à les voir, etc. Du coup, on les connaît en fait, ils habitent là, c'était. La foi est une belle ville.
Vous avez vu là cet après-midi circuler dans la ville les jeunes, là, un truc, le CMU là.
Ah ouais, c'est carrément
flippant, c'est très simple.
Après, la leur parfaite, quoi.
Les gens qui font des services militaires en uniforme, c'est un service militaire,
service national.
Service national universel. Sans jeune, avec casquette, habillé en chemise blanche. Dans la rue. Là, dans les rues.
Tout à l'heure.
Mais moi, je me suis des scouts au début, j'en vois quelques-uns. Tu vas dire, là, il y en avait bien là.
C'est les jeunesses macroniennes.
Mais c'est pas.
Le lundi, c'est pareil. Tu sais, nous, je vous fais écho à ça, en fait. Là, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, une petite étude sur l'école de la nation et la. Ce truc-là, ce schéma-là. Et en fait, entre la guerre de 14 et la guerre de 40, en fait, il y a eu un gros travail de l'État fait sur les valeurs de patriotisme au niveau des écoles. Et ça a commencé dès le CP, en fait. Mais en fait, ce qu'on peut craindre avec ce qu'on voit là, les propositions de la CNU, d'uniformes, tout ça, d'endoctrinement, en fait, c'est quand même une espèce de résurgence de ça, quoi.
Total.
Ouais. Ça, effectivement, ça fait peur.
Ah ouais, non.
Paradoxalement, il y a une partie du monde enseignant qui est restée traditionnellement un peu à gauche, mais de plus en plus réduite. Et il y a une partie du corpus enseignant qui se dit, mais pourquoi pas, puisque ça, globalement, le collège unique n'a pas bien fonctionné, pourquoi pas essayer. Et c'est ça qui est d'autant plus. Inquiétant, quoi. C'est-à-dire que les gens sont prêts à essayer au pire.
Oui,
mais là, je parlais à Karine quand elle est arrivée. En fait, moi, là, c'était le week-end d'avant. Là, je suis allée aux rencontres nationales de librairie qui est organisée à Strasbourg. Donc, ça a lieu tous les deux ans. Et c'est un très gros truc, en fait, avec beaucoup d'argent investi. Il y a énormément de libraires qui viennent. Il y a des maigres, donc ça, avec le badge Hachette. Voilà, cela, on n'en parle pas trop. Il y a des gens du ministère de la Culture qui sont là, avec le badge ministère de la Culture, je ne sais pas trop qui c'est. Mais ils sont là, ils écoutent toutes les conversations. Voilà. Eux, ils ne prennent pas la parole, mais ils sont là, ils écoutent bien. Et du coup, ça dure deux jours, tu bois du champagne, enfin, tout est bien. Et la session plénière de clôture, donc il y avait 400 libraires, enfin, un truc de fou. Il y a toutes les librairies historiques, enfin, les grandes librairies, les librairies qui ont un poids politique aussi, parce qu'il y a des librairies, il y avait Natacha de la Simone qui dirige la librairie de l'atelier Jourdain à Paris. Tout le monde la connaît, tout le monde dit ça, c'est vrai. Elle a une librairie historiquement à gauche, tu vois, enfin, mais la gauche radicale, quoi. Et du coup, la plénière de clôture, ça s'intitulait Librairie, politique, liberté d'expression. Et le sous, c'était quel rôle les positionnements des librairies dans des contextes politiques tendus, privés. Forcément, tout le monde se dit, ouais, c'est super l'actualité, allons-y et tout. Et là, en fait, du coup, il y avait une table ronde organisée avec trois libraires, un éditeur et Nicolas Mathieu. Tout le monde s'est demandé qu'est-ce que fout Nicolas Mathieu ici, enfin, on s'en fout, en fait. C'est un auteur, c'est un primo pour de la suite. C'est une star, quoi. C'est une star pour finir les deux jours. Et en fait, et alors là, moment d'angoisse absolue où vraiment on s'est dit donc ça a été réagi, tu vois, il y a eu une tribune qui a été envoyée à médias partout, mais que tu voyais en direct la droitisation en temps réel, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, la table ronde, il se déroulait une espèce de ligne philosophiquement social-démocrate. Puis c'est sûr qu'en librairie, c'est compliqué de dire je suis pas pour la pluralité de point de vue, je suis pas pour la pluralité de pensée, c'est compliqué quand même, tu vois. Enfin, quand t'es libraire, c'est quand même quelque chose auquel tu crois. Le problème derrière, c'est que c'est accolé à l'idée, bah on est pour la pluralité de point de vue, la pluralité éditoriale, et les idées d'extrême droite sont des idées comme les autres. C'est ça en fait, la rhétorique, où ça a super bien, enfin tu vois, l'extrême droite, elle travaille à ça depuis la nouvelle droite, en fait, depuis les années 70. Donc ça fait 50 ans, et au bout de 50 ans, tu vois les résultats en temps réel comme ça, sur une profession qui est quand même historiquement à gauche, hein, la librairie, quoi, c'est comme tu dis le corps enseignant, c'est quand même des bastions de la gauche, en fait. Et là, tu voyais, bah, la partition, c'était 50% de la salle, ils étaient ok avec ça, ils disaient, ouais, oh, mais moi ça va, moi j'ai Transmania dans ma librairie, qui est un truc transphobe, enfin, une horreur, tu vois, en disant, bah oui, mais la pluralité de point de vue, c'est pas... Et du coup, voilà, après, il y a un libraire pareil qui a une très grosse librairie. Donc, en fait, après, c'était parole micro, parole à la salle. Donc là, en fait, on tourne, enfin, les libraires, quand même, pètent les trucs. Ça part en flash direct à Strasbourg. Strasbourg, c'est quand même la ville un peu chaude et tout.
clash tout de suite. Il y a un libraire qui nous dit, et si on parlait un peu des librairies, des antifas qui s'en prennent aux librairies d'extrême droite. Il balance ça comme ça. Moi, je suis sérieusement, j'ai le micro juste après, j'avais pris le petit truc à dire ça, et du coup, je me sens obligée de réagir à ce commentaire, tu vois, je te pardonne. Quel est ce commentaire? Comment est-ce possible? Je dis, en fait, les librairies d'extrême droite, c'est une librairie fasciste. Le fascisme, c'est interdit par la loi. Oui, les librairies d'extrême droite, on veut les brûler.
Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet www.radiokipik.org.